quelques versets dans l'épître aux Éphésiens. Nous prenons la liberté de dire que si quelqu'un entend des mal, qu'il ne craigne pas de le signaler. Éphésiens, chapitre 2. Verset 4. Mais Dieu est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Vous êtes sauvés par la grâce et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans le Christ Jésus. Chapitre 3. Verset 5. Lequel mystère en d'autres générations n'a pas été donné à connaître aux fils des hommes, comme il a été maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes par l'Esprit, savoir que les nations seraient cohéritières et d'un même corps et coparticipantes de sa promesse dans le Christ Jésus par l'Évangile. Chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelé, avec toute humilité et douceur, avec longanimité, vous supportant l'un l'autre dans l'amour, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Verset du chapitre 4, toujours. Verset 17. Voici donc ce que je dis et témoigne dans le Seigneur, c'est que vous ne marchez plus comme le reste des nations marchent, dans la vanité de leurs pensées. Verset 20. Mais vous n'avez pas ainsi appris le Christ, si du moins vous l'avez entendu et avez été instruit en lui, selon que la vérité est en Jésus, c'est-à-dire en ce qui concerne votre première manière de vivre, d'avoir dépouillé le vieil homme qui se corrompt selon les convoitises trompeuses, et d'être renouvelé dans l'esprit de votre entendement, et d'avoir revêtu le nouvel homme créé selon Dieu, en justice et sainteté de la vérité. C'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge, parlez la vérité chacun à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Mettez-vous en colère et ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, et ne donnez pas occasion au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Verset 29, qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche, mais celle-là qui est bonne, propre à l'édification selon le besoin, afin qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume et tout courroux, et toute colère et toute crierie, et toute injure soit ôtée du milieu de vous, de même que toute malice. Au chapitre 5, verset 3, mais qu'il n'y a fornication ni aucune impureté ou cupidité ne soit même nommée parmi vous, comme il convient à des saints, ni aucune chose honteuse, ni parole folle ou plaisanterie, lesquelles ne sont pas bienséantes, mais plutôt des actions de grâce. Là, en effet, vous le savez, connaissant qu'aucun fornicateur ou impur ou cupide, qui est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Au verset 8, le chapitre 5, toujours, car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toute bonté et justice et vérité. Et Provence qui est agréable au Seigneur. Et n'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses et ténèbres, mais plutôt reprenez-les aussi, car les choses qu'ils font en secret, il est honteux même de les dire. Mais toutes choses étant reprises par la lumière sont manifestées. Car ce qui manifeste tout, c'est la lumière. C'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et le Christ luira sur toi. Verset 18, mais ne vous élivrez pas de vin, en quoi il y a de la dissolution, mais soyez remplis d'esprit, vous entretenant par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur. Verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Verset 25, Marie, aimez vos propres femmes, comme aussi le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Et chapitre 6, enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec promesse, afin que tu prospères et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, ne provoquez pas vos enfants, mais élevez-les dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur. Esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement. En simplicité de cœur, comme à Christ, ne servant pas sous leurs yeux seulement, comme voulant plaire aux hommes, mais comme esclaves de Christ, faisant de cœur la volonté de Dieu. Verset 9, et vous, maîtres, faites-en de même envers eux, renonçant aux menaces, sachant que et leur maître et le vôtre, et dans les cieux, et qu'il n'y a pas d'acception de personne devant lui, auprès de lui. Au verset 12 du chapitre 6, car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés et contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu. Verset 14, tenez donc ferme, ayant saint vos reins de la vérité, ayant revêtu la cuirasse de la justice, ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix, par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, priant par toutes sortes de prières, de supplications, en tout temps par l'esprit. Nous restons là. Une remarque que chacun peut faire ou a fait à propos de cette épître en particulier, c'est que il est toujours frappant de voir de quelle manière Dieu, dans ses enseignements, garde un équilibre parfait. Si quelqu'un veut nous dire que le christianisme n'est que pour la terre, actuellement, tant que nous y sommes, la parole passage nous dit « Vous êtes dans les lieux célestes ». Si quelqu'un est en danger de penser qu'étant dans une si haute position, il n'y a plus de difficultés dans la vie présente et qu'il suffit de se laisser aller, nous trouvons les exhortations les plus fortes et une indication des dangers que font courir les passions les plus ordinaires. De sorte que les déclarations les plus élevées se lient parfaitement bien avec les exhortations les plus élémentaires. Nous sommes du ciel, les chrétiens sont du ciel, elles sont dans le ciel, et ce n'est pas une expression vaine, c'est une réalité, mais en même temps, et le ciel est à eux, tout à fait, mais en même temps, les chrétiens sont là, dans le corps, sur la terre, et ils ne sont pas des anges. Dans ce sens-là, que leur condition présente les lie à tout ce que représente la présence ici-bas d'un homme dans la chair, quelque chrétien qu'il soit. Nous savons bien que nous avons besoin à la fois de ces hautes perspectives célestes et de ces réalisations célestes dans nos âmes. C'est la source de nos plus hautes joies, de nos joies les plus saintes, de notre force aussi, et en même temps les exhortations les plus ordinaires relatives au comportement de chaque jour. Un chrétien, quel qu'il soit, est un être complexe. Il aime ce qui est de Dieu, il aime, il trouve son plaisir, n'est-ce pas, sans quoi il n'est pas un chrétien. Toutes les choses qui sont Dieu, la nature de Dieu, l'amour qui est en Dieu, la lumière qui est de Dieu, tout cela, il trouve son plaisir. Et en même temps, ce même chrétien est porté à se conduire comme il a en lui une nature qui l'entraînerait à se conduire comme les plus méchants des hommes. Nous n'avons pas à faire des saints. Nous n'avons pas à laisser croire que nous sommes désormais au-dessus de la condition humaine. Non, le christianisme n'est pas cela. Il nous rappelle notre condition tout entière et il nous donne de quoi, il nous donne les secrets, la puissance, pour pouvoir réaliser cette condition sans sombrer. Hélas, il y a bien des chrétiens qui sombrent, sans perdre pour autant leur salut. En tant que membre du corps de Christ, nous sommes liés à Christ qui est la tête dans le ciel. Et cela, ce lien, il est spirituel, il est créé par le Saint-Esprit, il est entretenu par le Saint-Esprit et pour l'éternité. Encore une fois, l'état chrétien consiste à avoir la vie et le Saint-Esprit ayant scellé cette vie. J'insiste sur ce dernier point parce que cela a intrigué plus ou moins tout le monde, génération après génération. Et cette différence entre le don de la vie et le don du Saint-Esprit surprend même des chrétiens qui n'ont pas été amenés à s'arrêter devant cela. La vie que nous recevons de Dieu n'a pas de puissance. C'est une vie de dépendance. Et la puissance de la vie d'un chrétien, c'est le Saint-Esprit que ce chrétien a reçu et qu'il a reçu pour toujours. Supposez qu'un chrétien tombe dans de très graves défaillances, s'il est un chrétien, le Saint-Esprit reste avec lui toujours, quoi qu'il en soit. Il ne se retire jamais. Seulement, il devient alors un esprit de répréhension. Au lieu d'être un esprit de communion avec Dieu, un esprit de répréhension. Et c'est une grâce que le Seigneur nous avertisse quand nous sommes en train de sombrer. Si un père de famille ne sait pas toujours bien agir convenablement à l'égard de son fils qui lui donne des soucis, Dieu sait toujours faire. Il sait toujours quand il faut atteindre une conscience, frapper quelqu'un qui est en danger, ou alors consoler un de ses enfants. Retenons cela. Nous risquons dans les derniers jours de perdre de vue à bien des égards les contours de la vérité. L'esprit, la vie et l'esprit sont deux choses distinctes. Les saints de l'Ancien Testament n'ont jamais eu le Saint-Esprit comme nous l'avons. Mais c'est le même esprit qui leur avait donné la vie, la foi, par conséquent la vie. Et encore une fois, il n'y a pas deux vies éternelles. La vie éternelle est dans le Fils. Et non, celui qui a le pied à la vie, celui qui a la foi à cette vie-là, reçoit cette vie éternelle. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous entrons dans le ciel. Nous le réalisons, un chrétien peut le réaliser dans sa vie quotidienne. Pratiquement, comment cela se réalise-t-il? Par la communion avec le Père, avec le Fils. C'est personnel avant tout. Dans une même famille de chrétiens, il se peut qu'il y ait un membre de la famille qui soit beaucoup plus céleste que les autres. Ça arrive souvent. Et il jouit du ciel beaucoup mieux. Cela échappe au sens, bien entendu. La chair, la vue, les sens n'ont rien à faire en cela. Rien à faire avec cela. C'est d'ordre spirituel. Mais il n'est pas un chrétien ici qui n'ait fait l'expérience de la puissance de ces relations de l'âme avec le Seigneur. Si deux êtres humains peuvent réaliser une communion de sentiments, cela serait-il si difficile à Dieu de permettre à ses enfants d'avoir communion avec lui? Et serait si anormal? Or, c'est la position normale du chrétien, qu'il marche avec son Père. Le Saint-Esprit dit en lui, « Abba, Père !» C'est le Saint-Esprit. Si un chrétien n'a jamais réalisé cela, il n'est pas un chrétien. Ou bien, l'œuvre en lui n'est pas achevée. Il peut avoir la vie sans le Saint-Esprit, l'œuvre n'est pas finie. Il peut y avoir un intervalle entre la possession de la vie et la réception du Saint-Esprit. Nous sommes donc du ciel. Nos relations sont dans le ciel. Peut-être qu'il y a beaucoup de monde ici, beaucoup de personnes chrétiennes, dont des soucis plus ou moins grands, et tout en restant chrétien, de rechercher les plus hautes relations sociales. Hélas, les frères succombent à cela. Oui. Les plus hautes relations s'élever dans l'échelle sociale. Eh bien, ce n'est pas de la sagesse, cela, pour un chrétien. On comprend que les hommes le fassent, bien que ce soit vain, en définitive. Plus un homme s'élève, plus la chute est grande, quand la mort passe sur lui. jeunesse, que le Seigneur vous garde, garde la jeunesse, de cette puissance d'égarement étonnante que le Saint-Esprit emploie pour faire miroiter devant même de jeunes chrétiens et de non, d'autres qui ne sont pas jeunes, miroiter les fausses valeurs de ce monde. Ce que ce souci de l'ascension sociale nourrit, c'est le fond d'orgueil qui est dans tout homme. Il y a une morale chrétienne, une morale profonde. Ce n'est pas une morale humaine. La morale humaine est un ensemble de principes énoncés par des hommes responsables ou qui sentent qu'il faut tout de même plus ou moins retenir les foules et veiller sur les contacts humains, les rapports humains. Alors on établit des règles et puis on établit des puissances susceptibles de contrôler ou de châtier, n'est-ce pas, le cas échéant. Tout cela, ça peut avoir sa place, sans aucun doute, et Dieu s'en sert. Et quand Dieu permet que tout cela, ses moyens disparaissent, c'est l'anarchie ou le despotisme qui suivent. Et peut-être que nous ne sommes pas loin de connaître l'un ou l'autre. Dans nombre de pays du monde. Tandis que Dieu, qui a une morale, si on n'ose parler ainsi, Dieu qui donne une morale aux croyants. Bon, il avait donné une loi morale au peuple juif. Seulement, il y avait là une loi qui était donnée au peuple juif pour qu'il la réalise et qu'il reçoive en la réalisant la bénédiction de Dieu. Il n'a pas réalisé la loi. Nous savons ce qui est arrivé. Un naufrage complet. Mais il y a une morale chrétienne qui est toujours là. Et elle consiste. Ce sont les enseignements que Dieu nous donne, qui donne aux croyants. Il ne les donne pas à un inconverti. Il n'a pas de morale pour un inconverti, sauf que, évidemment, un homme sérieux l'honore davantage qu'un malfaiteur, c'est clair. Mais tant qu'il n'y a que ça, tous les deux iront dans les ténèbres du dehors, sinon que cela. Dieu donne une morale à tout le monde. Et cette morale consiste en ceci. C'est qu'à un chrétien qui a donc la vie et le Saint-Esprit, Dieu donne le pouvoir de ne pas être comme un inconverti, surmonté par ses convoitises, ses passions, l'influence du monde. Mais au contraire, de les surmonter, d'être le plus fort dans ce conflit inévitable entre un chrétien et les éléments que nous venons de rappeler. On n'y échappe pas, il ne s'agit pas de se créer une attitude de quelqu'un de saint et d'inattaquable. Aucun homme n'échappe à ce dilemme. Aucun. Aucun chrétien n'échappe à ce dilemme. Ou bien il triomphe de ses adversaires, ou il est vaincu par eux. Aucun homme n'échappe à cela qu'il est là dans une position de combat. Et Dieu ne vous demande pas votre avis, Satan non plus. Peut-être aussi, c'est une chose à considérer de très près aujourd'hui, de nos jours, dans les assemblées, nous occupons d'avant tout cela, bien que nous puissions et devions nous intéresser à l'occasion à tous les chrétiens du monde, quand cela peut se présenter, rappeler cela. Sinon, qu'est-ce qui gagne les chrétiens? Le sommeil. Et le sommeil, c'est quoi? C'est la porte ouverte à la chute. Toujours, voilà, toujours. Le sommeil. Le sommeil, c'est quoi? C'est s'identifier avec l'état du monde. Quand un chrétien, quand un frère ou une sœur se jette avec la même frénésie qu'un inconverti dans les choses du monde, eh bien, il est pratiquement, il s'est disqualifié en tant que témoin chrétien. Il reste un chrétien, mais il n'est plus un témoin chrétien. Il est le témoin que Satan, si l'on veut aller un peu au fond des choses, il est le témoin que Satan semble plus fort que Christ, plus fort que le Saint-Esprit. Au fond, ce n'est pas vrai. Mais dans ce chrétien-là, voilà la conclusion que l'on peut tirer. Voilà le témoignage qui en résulte. Satan plus fort que le Saint-Esprit, Satan plus fort que Dieu. Et Dieu le permet, et Dieu n'est pas troublé par cela, parce qu'il aura toujours le dernier mot, même sur Satan. Et en attendant, quand il voit un de ses enfants qui aime mieux faire sa volonté, ah bien, eh bien, il la laisse faire jusqu'à ce qu'il en ait assez. Et cela peut conduire très loin un chrétien. C'est rare ce que je dis là, ce n'est pas bien rare, ce ne sont pas des événements rares, pas du tout. S'il n'y a pas dans le cœur d'un chrétien la puissance active de l'Esprit Saint, ce chrétien est dans un état très vulnérable, la puissance active du Saint-Esprit. On peut être converti depuis 20 ans et être très faible aujourd'hui, faute de vigilance et faute d'avoir veillé à ne pas attrister le Saint-Esprit comme nous l'avons vu. N'attristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. N'attristez pas. Je ne cache pas pour mon compte que c'est une chose plutôt frappante de voir qu'une tendance assez générale est marquée parmi les saints aujourd'hui d'oublier ce point de vue, ce côté si important de la vie pratique chrétienne dans ce monde tel qu'il est. Comme nous disions ce matin, eh bien, Satan est le chef du monde, il l'est. Il ne sera pas toujours, mais il l'est. Il n'a jamais été appelé ainsi avant le rejet de Christ. Et pour nous, encore une fois, Dieu donc définit parfaitement notre position dans les lieux célestes, et peut-être que cela, Dieu le sait, mais en général, c'est bien, en grande partie, c'est bien vrai, que ce point de vue de la vie chrétienne est n'a été guère tenu que par les frères, témoignages des frères. Cela fait partie de la vérité générale que le témoignage dont une assemblée doit être le témoin. Vous demanderez à quelqu'un, et faites l'expérience, vous demanderez à quelqu'un, même un chrétien, mais qu'est-ce que cela veut dire, assis dans les lieux célestes en Christ? Est-ce que cela a un sens? Est-ce que cela a une application? Est-ce que c'est une chose utile? Est-ce que cela nous apporte des avantages et des ressources aux chrétiens? Beaucoup de gens vous diront, impossible à comprendre. Assis dans les lieux célestes, nous sommes en Christ. Tandis que c'est une vérité de grande valeur, une grande vérité de base du christianisme selon Dieu. Et peut-être depuis les apôtres jusqu'au témoignage du siècle dernier, il ne serait probablement pas excessif de dire que la réalisation de ces choses a été perdue. Les individus avaient la foi, le Seigneur les soutenait, remplissait leur cœur, mais la position chrétienne dans les lieux célestes, c'est rare qu'on trouve cela dans des écrits relatifs à l'histoire des siècles des siècles jusqu'au témoignage d'Arrivera. Et peut-être même que pas mal de frères, peut-être pas mal ici, ne voient quant aux vérités chrétiennes que le fait d'aller un jour au ciel. Mais c'est un chrétien qui lit la parole et s'en nourrit, et il n'attend pas plus tard, il y va aujourd'hui, il y était aujourd'hui. J'ai pu le réaliser ensemble, par exemple, ce matin, ou partout dans les lieux, dans les assemblées. On est au ciel, on y est. Et nos amis sont aussi bien quand nous sommes dans le ciel. Qu'est-ce qui nous empêche de réaliser cela? La chair, le monde, l'amour du monde. L'amour du monde. Il n'y a rien qui soit un danger comme l'amour du monde. Les choses qui y sont. Assis dans les lieux célestes en Christ. Bon. Et alors nous avons ensuite des exhortations très précises sur, je dirais quelques mots sur, c'est d'ailleurs simple, c'est très simple, mais on insiste sur le fait, on peut insister sur le fait que ces exhortations très ordinaires sont liées aux déclarations les plus élevées qui soient, élevées à un point tel que nombre de chrétiens ne les auront jamais saisies. Iront-ils au ciel pour ça? Bien sûr, leur nom est, ils sont sûrs d'aller au ciel. Mais que leur carrière en est pâtie, c'est évident. Car ce n'est pas pour rien que le Saint et que Dieu a donné, que le Seigneur a donné ces passages comme celui-là d'Éphésiens aux assis dans les lieux célestes en Christ. Ce n'est pas pour qu'ils soient inutiles. Il n'y a pas de portion d'écriture qui soit inutile. En langage plus ordinaire, si vous avez rencontré des chrétiens, hommes ou femmes, spirituels, pieux, pas pieux, dont on sent, vous avez senti, qu'il y avait en eux quelque chose que vous n'aviez même pas, ou en tout cas pas avec la même puissance, tout simplement, ces personnes-là réalisaient davantage, vivaient davantage dans les lieux célestes, et dans la communion avec un Seigneur ressuscité et glorifié. Le Seigneur a promis, il m'a dit qu'il s'en était allé et que toute autorité lui a été donnée et qu'il serait avec les siens tous les jours, la fin de Matthieu. Je suis avec vous tous les jours. Encore voilà des questions, des déclarations à propos desquelles nombre de chrétiens dans le monde, peut-être parmi par les frères, demanderaient, mais comment cela se fait-il? Nous sommes trop portés à tout limiter à ce que nos sens discernent. La nature, là, c'est ce qu'on voit, qu'on entend, n'est-ce pas? Et il y a là un remarquable passage dans l'Épître aux Corinthiens, pour tout ce qui se voit, tout ce qui s'entend, une sorte de réplique du Saint-Esprit à ces pensées humaines, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Trois choses dans l'Épître aux Corinthiens. Dieu nous l'a révélé par son esprit. Et un frère de nos bons anciens, à ce sujet, écrivait cela, ou à peu près, ce que l'œil n'a pas vu. Vous allez me dire, voilà un très beau, une très belle chose, un très beau spectacle. Je vous réponds, disait le frère, à celui-là. Il faisait parler un homme fictif, n'est-ce pas, qui s'extasiait devant tel ou tel spectacle. Attention, cher ami, je trouve dans l'écriture ce que l'œil n'a pas vu. Vous me faites voir ce que l'œil peut voir, ce que l'œil n'a pas vu. Voilà ce que Dieu nous fait voir. Voilà une belle mélodie, disait toujours cet ami chrétien, ce cher frère. Ce que l'oreille n'a pas entendu, c'est le Saint-Esprit qui le fait connaître. Ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, voilà des pensées très profondes dans le cœur des hommes. Nous répondons, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, le Seigneur nous l'a révélé par son esprit. Le chrétien qui jouit la communion avec le Seigneur, il a dans son âme la jouissance de ces beautés toute morale, n'est-ce pas, de beauté, liée à la nature même de Dieu. Et c'est d'un ordre bien supérieur à tout ce que peut offrir la première création. Toute cette pauvre création qui est brillante, bien entendu, et elle proclame la gloire de Dieu, n'est-ce pas, mais elle est souillée et elle est condamnée à disparaître. Nous sommes de la nouvelle création. Que le Seigneur nous accorde de le réaliser. Et on n'a pas besoin d'être un docteur pour cela, c'est la piété qui compte. S'il y a un homme qui craint Dieu, un jeune chrétien qui soit exercé avec lui, il aura le cœur plein de cela. Tandis que peut-être les frères qui ont 20 ans plus que lui, tâtonneront encore dans ce pauvre monde sans beaucoup de lumière, parce qu'ils auront le cœur à la fois mondain et pourtant le cœur du chrétien. Comme un frère disait, « Ah, si votre cœur est partagé et double, eh bien, coupez-le en deux et jetez de la mauvaise moitié. » Et peut-être bien que ce serait à retenir et à appliquer pour beaucoup d'entre nous et dans beaucoup de situations, n'est-ce pas ? Ces chrétiens-là parlaient très fortement, parce que le Saint-Esprit agissait fortement en eux, et il leur donnait ses pensées et ses formules plutôt lapidaires, mais profondes et vivantes, n'est-ce pas ? C'est que ça se rattache à ce que nous disions cet après-midi, qu'il faut savoir couper sa main droite. Tandis que nous cherchons à avoir le plus d'avantages sur la terre, et puis le ciel, on ne le rejette pas, et on veut bien y penser, et on suivra bien, et on chantera bien, et même on parlera des choses de Dieu. Doucement. Doucement. Vous ne verrez jamais que quelqu'un qui craint Dieu parle des choses de Dieu à tort et à travers, à la légère. Il préfère se taire quand il ne peut pas en parler avec le Seigneur. Et je répète encore une fois ce qui a été dit, et cela m'a fortement frappé ces derniers mois ou dernières années, qui a été dit l'autre fois, qu'il n'y a rien de plus dangereux pour un chrétien, parlons pas d'un inconverti, c'est encore plus vrai, et il n'y a rien de plus dangereux pour un chrétien que d'avoir un contact avec les choses saintes sans que le cœur et la conscience la touchent. Rien de plus dangereux pour un chrétien. Il y a là la vraie raison à bien des chutes. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, quand nous exerçons des services sur la parole, avec la parole de Dieu, que nous le fassions avec le Seigneur, avec un exercice avec le Seigneur, sinon nous nous habituons à parler des choses de Dieu sans Dieu, c'est la porte ouverte à toutes les misères. Il faut toujours qu'un chrétien reste en deçà de son niveau spirituel, toujours. Voilà pourquoi aussi, c'est un, j'allais dire un crime, cela, on pourrait bien l'appeler ainsi, faute très grave de pousser quelqu'un à un service quelconque. Vous ne savez pas s'il est en état de l'accomplir. Vous n'en savez rien. Et nous touchons alors à une question aussi non moins importante et plus générale, parce qu'au fond, n'est-ce pas, une des fautes de toute organisation dans le christianisme chrétienne des fautes, c'est qu'il y a à l'origine, à la base, l'intervention de la pensée, de la volonté, de l'activité humaine. C'est un, si j'osais dire ainsi, un vice rédhibitoire. Ce qui est de Dieu, Dieu seul s'en charge. Tout le travail de Dieu, c'est Dieu qui le fait. Il peut se servir de chrétien, même d'un converti, le cas échéant, mais c'est lui qui fait le travail. Et quand nous servons le Seigneur, nous devons avoir ce sentiment-là que nous ne sommes que le serviteur qui accomplit la volonté de son maître et par la puissance du Saint-Esprit. Que nous ne le fassions pas toujours, c'est certain, mais nous devons être exercés dans ce sens-là. Très dangereux de pousser quelqu'un. C'est le bon moyen, peut-être le meilleur, hélas, de le faire broncher. Mais si le Seigneur, au contraire, agit en lui, il fera son travail, accomplira son service avec le Seigneur, par le Seigneur et pour le Seigneur, et alors, aucun obstacle, il ne rencontrera aucun obstacle. Merci. Nous avons vu donc que l'Église qui est en relation avec son chef, elle est le corps, la tête, et je rappelle ce verset du chapitre 1, un verset un peu difficile dans beaucoup de lecteurs au début, c'est qu'elle est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. La plénitude. Le dernier verset du chapitre 1er. La plénitude. L'Église est la plénitude, c'est-à-dire le complément. Le complément de la tête. Et c'est l'ensemble, la tête et le corps qui forment Christ. Christ complet. Christ complet. La dent complète. Comme nous le rappelions, je crois, hier, mais l'Église, c'est la vraie Ève de l'Adam céleste. Nous avons ensuite, bien, nous passons rapidement, mais qui nous soit donné à tous, et en particulier aux frères et sœurs plus âgés, de cultiver cette communion avec le Père, avec son Fils. De jouir de ce qui est du ciel, ce que l'œil n'a pas vu, ne peut pas voir, non, pas du tout. On peut bien chanter très bien des cantiques, ça ne va pas mal, très bien selon la musique, mais n'oublions jamais que les harpes, les cantiques célestes, ce sont nos cœurs, et ce sera toujours nos cœurs. Un vrai cantique, au fond, se chante d'abord dans le cœur et dans l'assemblée, pour l'assemblée toute entière. Nous avons d'ailleurs l'expérience que lorsque nos cœurs en sont vraiment pleins, eh bien, le chant lui-même n'en souffre pas, bien au contraire. Inversement, quand nous attachons à la forme, comme c'est aussi une tendance à mesure dans les jours où le niveau général de l'instruction est plus élevé qu'il y a 50 ans, dans nos régions et aussi ailleurs, une tendance de s'attacher à la forme et d'être impeccable quant à la forme, justement, alors qu'on peut très bien chanter parfaitement un cantique sans qu'il y ait rien pour Christ, avec des cœurs aussi secs que la pierre. Et je cite, en passant, cela me vient, à cet ordre, à propos de cet ordre d'idée, dans cet ordre d'idée, une phrase, une remarque de Saint Augustin, dont tout le monde a entendu parler dans les débuts du christianisme, c'était un homme pieux. Et la phrase était la suivante. Pour bien nous montrer combien la conscience naturelle, combien l'homme est susceptible de s'écarter de la vérité et de s'attacher à des erreurs et de complètement s'égarer complètement. Il disait que dans son temps, c'était ceci, dans le temps où il vivait, il constatait que la jeunesse instruite de l'époque, se scandalisait d'une manière extrême pour toute infraction aux règles du langage raffiné, alors qu'elle ne se scandalisait en rien
pour les infractions les plus graves à la morale.
Voyons.
Ce que les formes ne prennent pas le pas à la réalité. Et la réalité est intérieure. C'est bon à dire de nos jours. Aujourd'hui, évidemment, il y a un essor, et pour la jeunesse, des portes qui s'ouvrent, en tout cas dans un certain sens, plus qu'autrefois, que la jeunesse prenne bien garde que le monde n'est pas amélioré par cela. D'ailleurs, Dieu permet que l'épreuve en soit tous les jours donnée. Et que c'est au contraire que le monde va plutôt, moralement en tout cas, il va en arrière et non pas en avant. Nous avons des exhortations très simples qu'il est bon de, nous avons besoin de relire dans cette haute épître aux Éphésiens. Il est parlé du mensonge. À qui est-il dit de ne pas mentir? À des incrédules, non? À des chrétiens? Ne mentez pas. Ne vous mettez pas en colère. Que cela ne se couche pas sur votre irritation. Il y a des attitudes ou des actes, même dans la vie des assemblées, qui, s'il n'y a pas une sainte colère, qui, de la part de ceux qui sont témoins de cela, ceux-ci sont infidèles. Il y a des cas où le silence, n'est-ce pas, saint silence, où une apparence de douceur n'est rien autre qu'une trahison. Il y a des fautes qui se commettent, qui peuvent se commettre même dans des assemblées, et qui doivent produire chez le fidèle une sainte colère. Mais comme nous sommes des êtres charnels, nous sommes exhortés à ne pas nourrir cette colère, que le soleil ne se couche pas sur cette colère. Autrement, quelqu'un qui reste placide et indifférent devant un mal dans une assemblée, c'est un traître. Et qui ne vienne pas invoquer la charité, qui ne vienne pas invoquer l'amour de la paix, parce que l'amour de la paix et la tolérance du mal ne vont jamais ensemble. Amen. Les moyens employés pour faire face au mal, c'est autre chose, mais nous parlons ici quant au principe. Les moyens exigent de la part de ceux qui ont à le faire la compétence, la spiritualité, la crainte de Dieu, de la maturité, mais c'est une autre affaire. Quant au principe, le mal au sein des assemblées devrait soulever une sainte indignation chez tous. Que s'est-il passé dans la montagne du Sinaï lorsque Moïse était là auprès de Dieu? Que s'est-il passé pendant ce moment-là? Que se passait-il parmi le peuple? Ils ont fait le veau d'or. Et Aaron, là, a une attitude qui n'est pas brillante. C'est étonnant, c'est ainsi. Il n'y en a qu'un, toujours, qui n'a jamais failli dans son témoignage. C'est le Seigneur. Chez tous les autres, on trouve des failles. Mais que s'est-il passé? Alors ils ont fait le veau d'or. Que fait Moïse? Aaron lui explique cela. Et Moïse, nous voyons deux réponses, nous dirions aujourd'hui réactions. Une, il brise les tables. Voilà. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et voilà, une idole. C'est notre cœur, il n'y a rien à faire. Rien à faire avec le cœur de l'homme. L'homme t'a. On ne peut rien en faire. C'est le plus mauvais matériau qui soit au monde. Il faut apprendre cela à vos enfants, tout en les encourageant. Mais pour les mettre, je le regarde, quant à eux-mêmes et quant à tout ce qui est dans ce monde. Le monde se fait beau, très, et on n'en finirait pas. Mais tout cela est plutôt terriblement affligeant. Et il en sera toujours ainsi. Moïse a donc fait cela, mais il ne s'en est pas tenu là. Dans sa sainte indignation, selon Dieu, qu'est-ce que fait Moïse ? À moi, quiconque est pour l'Éternel. À moi, quiconque est pour l'Éternel. En haut, il a plaidé pour le peuple, pour que Dieu ne détruisit pas le peuple. Sans quoi Dieu le détruisait, et il aurait fait autre chose. Il a prié pour que Dieu ne le détruise pas. Et une fois descendu, à moi, quiconque a parlé, eh bien, est à l'Éternel. Voilà les fils de Lévi qui s'avancent, leur épée dans leurs mains, et qui transpercent leurs frères, les membres de leur famille. Ah. Voilà une sainte indignation. L'indifférence, dans un cas de ce genre, c'est la haute trahison. Dans le détail, dans les assemblées, c'est la même chose. Il peut arriver qu'une position d'indifférence, confort, qu'est-ce qu'on cherche ? Écoutons bien. Regardons d'un peu près. Qu'est-ce que nous cherchons quand nous prenons une attitude d'indifférence ? Au fond, notre réputation. Nous aimons à ce qu'on dise du bien de nous. Et nous n'aimons pas à prendre des attitudes qui attireraient sur nous les critiques, les reproches ou les actions de tous ordres contre nous. Allez au fond de cela, c'est ce que vous trouverez toujours. Paul ne reculait pas non plus, il souffrait, mais il affronte les Corinthiens par exemple, et il les affronte, et il les menace avec les livrer à Satan, un homme à Satan. On dirait aujourd'hui, même des frères diraient, oh, mais l'amour, ne connaissez pas l'amour, hein, l'amour. L'amour, on s'appuie sur ce verset des Corinthiens, l'amour supporte tout, croit-on, il faut lire le contexte, il faut voir où cela se trouve, ça. L'amour pour Dieu ne laisse jamais passer le mal. Vous ne trouverez jamais que l'amour, selon Dieu, la grâce de Dieu, soit aveugle. Jamais. C'est la chair qui est aveugle. Elle s'épargne elle-même. Toujours vous verrez que c'est l'égoïsme qui est à l'origine de cela. Un frère s'épargne. Il veut qu'on ne l'empêche pas peut-être de faire ses affaires ou peut-être de conserver une influence dans l'assemblée. Oui. Ce que les Corinthiens, les chefs corinthiens, les conducteurs, c'était cela. Ils voulaient conserver leur influence. Il y avait un gros scandale. Eh bien, pour ne pas perdre leur influence dans l'assemblée, ils fermaient la bouche. Paul s'avance. Plutôt suit le Seigneur et il agit comme il devait agir. Faisons attention à cela. Un des traits de la nature divine, c'est l'horreur du mal, quel qu'il soit. Et il y a quelque chose qui est plus, peut-être, comment dirais-je, révoltant qu'un mal grossier. Un mal très grossier. Encore une fois, vous voyez même dans les assemblées que quand une faute grossière est commise, eh bien, tout le monde est prêt à agir. Et eh bien, des personnes qui même sont restées indifférentes ou qui n'ont pas aidé aux coupables quand ils n'auraient pas dû aider, c'est justement cela. Qui n'ont pas rempli à son égard un service préventif qui eût empêché une chute. Vous voyez à ce moment-là qu'ils sont les premiers à prendre une pierre et à lapider le coupable. Leurs deux attitudes sont mauvaises. Si nous craignions Dieu et aimions les saints, dans la mesure où cela nous est donné, nous leur aiderions préventivement. Nous les avertirions au cas échéant. Attention, mon cher. N'y a-t-il pas quelque chose de trouble dans vos voix ? Quelqu'un dira, oh non, je ne veux pas aller faire de la peine à quelqu'un. Mais est-ce qu'un médecin a peur de faire souffrir son malade ? Quand, même s'il veut très bien soigner, il est bien obligé de le faire souffrir. Le mal est là. Il ne suffit pas de le couvrir d'un linge pour qu'il disparaisse. Le mal est là. Nous avons donc à veiller à cela. Un des traits de la vie divine, c'est l'horreur du mal. Dans l'assemblée, cela doit être. Et encore une fois, un mal grossier n'est pas le coupable, parce que même le monde nous aiderait à le condamner. Et si un frère commet une faute grave, eh bien on le mettra en prison, et puis c'est très bien. On peut avoir à le mettre en prison. Il n'y a rien à redire à cela. Et les frères se garderont bien d'interdire auprès des autorités dans l'exercice de ce qui est pour elles, de la part de Dieu, un devoir, comme c'est écrit. Nous devons reconnaître toutes les autorités comme venant de Dieu, même si elles ne nous plaisent pas. Mais il y a des fautes plus graves, plus dangereuses. Le mensonge, l'avance, là. Le mensonge, la fraude. Eh bien, chers frères et sœurs, soyons exercés avec cela. Est-ce si courant que cela, de voir des frères et sœurs droits, intègres, marchant dans la lumière, n'ayons pas des attitudes équivoques, changeante. Même dans le monde, on apprécie cela. Même dans le monde, on condamne la fausseté, la fraude, l'effort fait pour voiler sa pensée. Jamais un chrétien, s'il marche avec Dieu, n'éprouve le besoin de voiler sa pensée. Ou il ne dira rien, s'il parle, il parle, il dira ce qu'il a à dire. C'est la simplicité morale. Est-ce... En est-il toujours ainsi parmi les saints? Sûrement pas. Et chacun de nous a à faire très attention. Comment le Seigneur apprécie-t-il un homme, un chrétien, sa vie, son service, sa marche? Qu'est-ce qu'il apprécie? Sans doute, il considère ce qui est extérieur. La parole, les actes. Mais Dieu va beaucoup plus loin. Et quand il jugera les hommes, selon l'évangile de Paul, Dieu sonde toujours les motifs. Les motifs. La valeur d'un acte est toujours dans les motifs qu'ils produisent. Toujours, sans exception. Je peux donner, être très charitable à l'égard de quelqu'un, parce que j'ai la pensée secrète qui me le rendra largement. Du beau travail, ça, n'est-ce pas? C'est du joli. C'est le monde. Vous ne trouvez pas cela chez le Seigneur, jamais. Chez Paul non plus, chez d'autres. Ou bien on cache ça, on cache sa vraie pensée, n'est-ce pas? Nous savons assez ce que le monde a dit. Ces dictons du monde, enfin, ils sont là, n'ont pas grande valeur, seulement ils révèlent l'état du monde. La langue a été donnée à l'homme pour cacher sa pensée, la dénaturer, la voiler. Et c'est bien vrai. C'est vrai qu'il le fait. Ce n'est pas vrai qu'elle lui ait été donnée pour cela. Et Satan est le menteur. Avant d'être meurtrier, il est menteur. Il n'y a rien de si difficile à prendre qu'un homme menteur. Un homme fou. Rien. Il n'y a pas de cas plus difficile que celui-là. Parce qu'il échappe. Et que de fois nous voit-on pendant des difficultés d'assemblée quand on est amené à regarder d'un peu près qu'il y a eu souvent beaucoup d'activités dans la fraude, des choses cachées qui tout à coup sont vues le jour, que d'autres pouvaient percevoir. Mais il faut aussi savoir attendre que le Seigneur manifeste les choses. Ça, c'est aussi un très bon principe. Si notre morale dépasse pas celle du monde, elle ne va pas haut. Hein. Notre morale, c'est que la vie divine soit manifestée dans les saints. Voilà. Au milieu d'eux, en eux. Voilà la morale chrétienne. Et nous avons de quoi faire taire les penchants qui nous conduiraient aux infractions à cette morale. Les penchants ne sont pas tous les mêmes de l'un à l'autre. Il y a peut-être un frère qui a une tendance à la fraude, au mensonge, un autre aura sa portée à l'orgueil, ça c'est aussi extrêmement courant. D'autres à d'autres passions ou convoitises, n'est-ce pas ? Chacun a à se connaître devant Dieu, et le nouvel homme doit avoir l'œil sur le vieil homme. En chacun. L'œil sur le vieil homme. Dieu ne vous demande pas de corriger votre chair par elle-même. C'est impossible. Ça fait des hypocrites. Toutes les religions où Dieu, où, qui n'ont pas Christ dans leur, toutes les religions, où là, où, chez les protestants, les hommes qui ne possèdent pas Christ, font des hypocrites. C'est hypocrite. Ou alors des gens qui finissent par ne plus être hypocrites, c'est simplement endurci, inconscient, et ils ne savent plus où ils en sont. La vérité divine seule nous tient dans la lumière, et vous n'avez pas de bonheur dans les ténèbres. Un chrétien n'est pas heureux dans les ténèbres. S'il marche mal, il n'est pas heureux. Peut-être ni son père, ni sa mère, ni ses proches, ni les frères ne s'en aperçoivent, parce que notre égoïsme nous empêche de nous intéresser aux autres souvent, ou quelquefois nous nous intéressons très mal aux autres d'une très mauvaise manière, la curiosité jouant alors qu'elle n'a aucune place en rien. Jamais. La curiosité est toujours charnelle. Encore un mot que je rappelle pour la jeunesse. Un mot très fort qui, je sais bien, quand je l'ai lu autrefois, il y a longtemps, m'a fortement frappé, et je trouvais même qu'il y avait une affirmation excessive. Ça n'est pas vrai. Profondément vrai. La curiosité est toujours charnelle. Adam et Ève, dans l'innocence, n'auraient jamais été curieux. Jamais. Que prouve la curiosité ? Que l'homme est tombé. Il a perdu Dieu, il n'est jamais content. La terre lui suffit plus, il faut qu'il aille ailleurs. Et ce ne sera jamais fini. Jamais. La curiosité est une démonstration permanente de l'état de chute de l'homme. L'homme n'a pas créé Dieu, l'homme curieux. Non, pas du tout, ce n'est pas vrai. Pas plus qu'il ne l'a créé menteur. Comme la parole est admirable, comme tout cela est vivant, comme tout cela est bien pour nous, dans notre condition actuelle. Ah, dans le ciel, il n'y aura plus d'exhortation, bien entendu. Mais ici, c'est indispensable. Je suppose qu'aucun chrétien ici ne saurait nier qu'il a eu besoin de ce secours divin, ces instructions-là, dans la semaine qui vient de finir. Puis d'ailleurs, chaque jour. Même à chaque heure. Et même, comme disait un excellent, ses frères de première force, à tout moment. Je ne peux pas me fier à mon cœur deux instants de suite, disait ce frère. Voilà. C'est bon, ces formules. Nous reconnaissons leur valeur. Nous reconnaissons leur supériorité morale et spirituelle. Voilà la trempe de ces hommes formés à l'école de Dieu. Vous vous confiez en votre cœur un mois durant, des années durant, où est-ce qu'il vous mène ? Les chrétiens. Où trouverez-vous la force pour abandonner une tendance, une convoitise, une pension ? Allez, faites le tour du monde. Où trouverez-vous ? Nulle part. On vous donnera des conseils, même pas, ou bien on vous dira que tout le monde, c'est l'état normal des choses, seulement en attendant. Vous sentez bien que ce n'est pas normal. Dieu seul peut vous donner cela. Vous donner d'avoir horreur du mensonge, horreur du mal. Même les choses ne doivent pas être nommées parmi vous. Même. On entend quelquefois, même des frères, sortir de leurs lèvres des mots tout juste convenables. Ça ne devrait jamais être. Nous sommes tellement souillés par nature que même l'audition d'un mot qui n'est pas correct souille. Nous avons beau bien nous parer et bien nous tenir et entretenir en nous une puissante satisfaction de nous-mêmes, tout cela, ça ne fait qu'aggraver notre cas. Aggraver. Pour une fois pour toutes, soyons persuadés que nous sommes méchants des pieds à la tête. Et que nous avons à nous méfier de nous-mêmes sans arrêt. C'est pourquoi c'est dangereux d'aller dans le monde. Le monde ne vous donnera jamais ce qui plaît au vieil homme, mais il vous donne des appâts pour le nouvel homme. Alors, toute la vanité, l'argent, la toilette, tout ce que l'on veut, qu'est-ce que vous faites ? Voilà. Mes frères, c'est cela aussi pour les jeunes, parce qu'aujourd'hui, il semble qu'ils n'ont beaucoup moins de temps pour lire. Or, il faut lire la parole et se nourrir des écrits que Dieu nous a donnés par le moyen d'hommes qui ont consacré leur vie, alors qu'ils auraient pu faire une très brillante carrière dans les sommets de la société. C'est tout à fait vrai ce que je dis là. Tout à fait. Un de ses frères, et nous pouvons changer pour montrer avec quelle profondeur de tels hommes, comme l'apôtre Paul bien entendu, sondaient la vérité et s'appliquaient à la réaliser, à la vivre. Disait une fois une jeune fille, dit-on mademoiselle, et on pourrait bien aujourd'hui faire la même question à des hommes d'âge mûr, à des frères d'âge mûr, en changeant simplement l'objet. Dites donc, mademoiselle, n'est-ce pas vrai que vous avez pensé à ce ruban plus qu'au Seigneur aujourd'hui ? Changeons de mot ruban, et nous pouvons tous le remplacer par quelque chose qui nous concerne chacun. Ah, monsieur, je n'avais jamais vu les choses ainsi. Voilà la vie pratique chrétienne. Et encore, même ces mêmes frères disaient, la vie chrétienne est faite de détails. Soyons fidèles dans les détails. Elle est faite de détails. C'est dans les détails que nous montrons si nous avons la force de Dieu ou si nous ne l'avons pas. Et les progrès ne se font pas comme ça d'un coup. Le progrès chrétien est généralement lent. On se nourrit de la vérité, elle donne des forces, on progresse, au point que, s'il y a des progrès, on est surpris en pensant à l'état, aux pensées que l'on avait, ou que l'on avait il y a quelques années, on dit comment est-ce que je pouvais supporter cela ? On se dit cela, comment pouvais-je le supporter ? Comment étais-je aveuglé au point de pouvoir supporter cela ? Voilà un des signes du progrès. Et d'ailleurs, les progrès se manifestent chez un chrétien par des changements que même les proches peuvent constater. Changements plus ou moins extérieurs, mais toujours, il y en a. Plus d'une fois, on a entendu dire à un père, une mère, parlant d'un de ses enfants, là, il est converti. Il y a un changement chez lui. Sans qu'on lui ait dit à lui-même, au jeune homme, au garçon. Là où il n'y a pas de changement, il n'y a sûrement pas d'avis. Il est impossible que l'opération de Dieu dans une âme soit faite, une opération, sans qu'il y ait des effets. Impossible. Alors ne faisons pas du christianisme un système théorique. Tout ça, c'est Satan qui fait ça. Christianisme est vivant. Il fait vivre et il tue. Il tue le vieil homme et il fait vivre le nouvel homme. C'est la vie et c'est la mort. C'est absolu. Combien les vrais chrétiens scellés du Saint-Esprit, comme ils sont au-dessus de la scène de ce monde, tout en étant, s'ils sont fidèles, les modèles d'humilité. Et dans un état d'esprit entièrement opposé au mépris. Un chrétien pieux ne maîtrise personne. Il voit un homme intempérant qui va sombrer dans le fossé. Il ne la méprise pas. C'est une créature de Dieu. Il a une âme immortelle. Et cela ne se perd jamais. Et le sort éternel dépend justement du fait qu'il y a une âme immortelle. C'est très solennel. C'est ainsi. Nos bons philosophes de toute espèce depuis longtemps nous racontent des histoires sur l'humanité et ils ne sortent jamais rien de vrai. Ils ne le veulent pas. Ce sont des morts au milieu des morts. Seulement, ils ne veulent pas croire l'écriture. Quand vous avez l'occasion quelquefois de lire ce qu'ils écrivent, et ce que certains, même les plus forts esprits, aux approches de la mort, par exemple, on est stupéfait que, au fond, du néant de leur réflexion. Pourrions donner des exemples. Nous avons la bonne part, chers frères et sœurs, chers amis chrétiens. Nous l'avons la bonne part. Il n'y a pas deux bonnes parts. Marie a choisi la bonne part, qui est d'écouter la parole de Christ à ses pieds. Il n'y en a pas deux. Christianisme est aussi neuf aujourd'hui que s'il avait été donné hier. Il peut rendre aussi bien heureux aujourd'hui qu'il rendait heureux un apôtre Paul. C'est à notre portée. C'est pas du mysticisme, ni d'exaltation, rien. Il n'y a pas d'homme de sens plus racine qu'un chrétien qui marche avec Dieu. Il n'y a pas d'homme. Et en même temps, il peut avoir très bien de hautes relations, et même à l'occasion, Paul avait des extases. Sans aller jusque-là, un chrétien peut avoir une communion avec le Seigneur dans sa vie, et à des moments de sa vie, d'une qualité très supérieure. Et il ne l'oublie jamais de sa vie. Et cela lie l'âme à Christ. La vie chrétienne est, se marque aussi donc, je termine, elle est faite d'expérience. Impossible de marcher avec le Seigneur sans faire des expériences. L'épître Philippiens, c'est l'épître de l'expérience. Relisons-la. Vous avez trouvé, encore une fois, nous posons la question. Vous avez vu quelquefois un homme qui soit avec Dieu et qui ne soit pas heureux? Si vous en avez trouvé un, vous serez très désireux de le voir. C'est impossible qu'un homme qui est avec Dieu, en qui Dieu est, soit heureux. Impossible. Avez-vous un homme vraiment heureux et qui n'est pas Dieu avec lui? Cela n'existe pas davantage. Il a l'air heureux, ses voisins lui envient sa fortune, sa haute situation, sa position sociale, tout cela, c'est de la folie. Voilà. Puissions-nous avoir les yeux ouverts sur les réalités de ce monde et les yeux ouverts sur les réalités célestes, c'est-à-dire le cœur avec le Seigneur là où il est. Et le bonheur que Dieu donne, il ne le vend pas. Il ne le vend pas. Les richesses qu'il donne, il ne les vend pas. Le chrétien qui est appelé à servir les âmes, la part du Seigneur, il ne vend pas la vérité. Il offre le bonheur, n'est-ce pas? Il l'offre gratuit. Et c'est le seul qui offre le bonheur. Ce sont les vraies richesses. Il offre les richesses sans contrepartie aucune. Plus il donne, plus il est heureux. C'est Dieu qui donne. Voilà la position du chrétien. Il peut être le plus pauvre en réalité, il est le plus riche. Riche en Dieu. En Dieu. Eh bien, chers amis, faisons connaître ce bonheur. Et la meilleure façon de le faire connaître, c'est d'en jouir, l'avoir dans son cœur. Un chrétien qui n'est pas heureux avec le Seigneur, il peut parler, mais il ment. Il ment, il est dans un mauvais état, rien dire. Que le Seigneur nous soit en aide et nous fasse faire l'expérience que s'il nous dit « n'aimez pas le monde », lequel monde il nous dit de ne pas aimer? Et quel monde? Et dans quel monde il nous dit de trouver nos satisfactions? Voilà la question. N'aimez pas le monde de Satan, mais il nous donne le monde qui est le sien, et là, on ne s'ennuie jamais. Vous avez vu quelqu'un qui s'ennuie avec Dieu? Qui s'ennuie avec? Vous avez vu quelqu'un qui ne s'ennuie pas sans Dieu? Qu'est-ce qu'ils font les hommes tout le temps? Une course effrénée. Pourquoi? Trouver un apaisement à cet ennui impossible à éteindre. Impossible. C'est la raison d'être de toutes les activités du monde. L'ennui. Il n'y a pas bien longtemps, un an ou deux, on pouvait lire dans un quotidien de bon ton, de bonne renommée, en tout cas, humainement parlant. La remarque suivante, faite par un journaliste, écrivait ceci. En parlant des spectacles, c'est un spectacle, théâtre ou autre, dans les grandes villes surtout, vers lesquelles les foules se rendent. Et il disait ceci, que les auteurs, les écrivains ou les acteurs qui accomplissaient ainsi leur service et leur travail étaient là pour faire oublier aux foules qui venaient leurs soucis et la mort.